Bienvenue ici. Ici, avec vos pieds. Ici, avec vos oreilles. Avant de commencer la balade, prenez le temps de régler votre volume sonore.
Why don't you print your name?
Ne vous coupez pas complètement de l'environnement sonore qui vous entoure. Vous devez pouvoir entendre clairement ma voix, mais aussi une voiture qui passe, ou la voix de quelqu'un qui aimerait vous parler. Vous y êtes ? Alors votre écoute va pouvoir se mettre en marche. Au cours des premières minutes, vous allez entendre des pas. Essayez de caler votre rythme de marche sur ces pas. Ils vous donneront le tempo de la promenade. À tout à l'heure.
Vu. Entre les deux, entrevue. In English, interview. Vu, pas vu, peu importe. Dans une entrevue, ce qui importe n'est pas de se voir, c'est de se parler. C'est ça qui compte. Honorer la parole donnée. Est-ce qu'on peut entrevoir une ville, l'interviewer? C'est ce qu'on va voir. Vous ne me voyez pas? Moi, je vous vois. Ou plutôt, je vous entrevois. Vous êtes devant l'abribus, ligne 8, arrêt André Noël. Plus bas, le centre-ville, la place Sainte-Catherine. Plus haut, une colline boisée, une presqu'île, les pieds dans l'étang, le Castellan. C'est là-haut que je vous emmène, pour entrevoir Istres, pour l'interviewer. Remontez le chemin du Castellan. Sur votre gauche, après le nouvel hôtel de ville, vous verrez une barrière, à sa droite, un chemin de terre qui grimpe dans la colline. Le Castellan, c'est un non-lieu. Ce pourrait être un parc, mais il semble en friche, un endroit où les faiseurs de ville n'ont pas fait grand-chose. Et au fond, ça n'est pas plus mal. En réalité, c'était le centre-ville, avant qu'il y ait une ville. Quand il n'y avait là que des hommes et des femmes qui disputaient des huîtres géantes aux monstres qui hantaient les temps de l'Olivier. Avant la ville, il y avait déjà des légendes. Des légendes urbaines. Le Castellan. C'est un souvenir d'un très lointain passé. Alors, petit à petit, il s'est fait oublier. Vous commencez à entrevoir le chemin? Allez-y, grimpez. Première entrevue. Interview.
Eh bien, nous sommes ici sur une éminence rocheuse qui domine à la fois la ville et qui domine aussi l'étang de l'Olivier et qui permet, comme tout belvédère, une vue panoramique sur le paysage istréen et qui permet d'apprécier les oppositions entre l'espace du rocher sur lequel se trouve la vieille ville et puis aussi les autres urbanisations comme Fos par exemple et puis le contact avec la Croix. Là, on est sur le Castellan. C'est un endroit qui est assez fondateur finalement de l'implantation humaine à Istres, puisque c'est là qu'on a eu des fouilles faites par Escalon de Fonton qui mettent en évidence que ce site a été habité par des gens de la civilisation cardiale. C'est l'époque des premiers habitants sur le pourtour de l'étang de Berre qui vivaient essentiellement de coquillages qui ont une forme de cœur et se servaient des coquilles de ces coquillages pour décorer leurs poteries. Comme on a retrouvé les poteries, et on a aussi retrouvé les foyers d'installation sous les abris sous roche. Et il y avait des abris sous roche au Castellan juste en dessous de nos pieds. Eh bien, c'est une des civilisations. C'est la première connue, je crois, sur la région de l'étang de Berre.
Là, au détour, on commence à voir l'étang. L'étang de l'Olivier.
Oui, alors étang de l'Olivier, je ne suis pas non plus exactement sûr de l'origine, mais cet étang était autrefois une cuvette, pas du tout en eau de cette manière, et il s'est rempli d'eau à travers les travaux d'irrigation qui ont été faits par Adam de Craponne, entre autres. Et donc l'eau des canaux qui n'est pas utilisée se jette dans l'étang de l'Olivier. Je crois aussi qu'il y a une surverse d'entre-saint, mais je ne suis pas exactement certain. Toujours est-il que cette eau, eau douce qui est arrivée dans cette cuvette est arrivée en plus grande quantité que prévu. Et donc l'eau a monté et a envahi les terrasses qui étaient plantées d'oliviers. Et l'eau continuant à monter, elle mettait en péril un petit peu la ville. Donc il a été décidé de creuser un tunnel de communication avec l'étang de Berre. Et donc avec cette action, l'étang de l'Olivier s'est salé au même titre que l'étang de Berre qui était aussi salé. Et on a eu par exemple des huîtres qui se sont développées dans l'étang de l'olivier qui se sont fixés sur les troncs d'arbres d'oliviers morts, noyés par la montée des eaux. Donc on a une chose assez curieuse, mais depuis que EDF a fait son canal, l'étang de Berre est redevenu beaucoup plus doux, moins salé, sauf en été. Et quand EDF turbine, bien, l'eau devient douce et l'étang de l'Olivier, lui aussi, a vu sa salinité baisser. Maintenant, l'eau est très très légèrement salée, mais assez peu. Si vous regardez juste en face de nous, au-dessus des anciennes carrières d'argile, eh bien, vous voyez des lignes horizontales qui correspondent aux terrasses qui ont été construites et sur lesquelles les paysans faisaient pousser des oliviers. Alors maintenant, c'est à l'abandon parce qu'il y a eu un gel en 1929 très important des oliviers qui fait que toutes les terres de terrasses qui étaient éloignées du village ont été abandonnées. C'est vrai pour toute la Provence.
Vous allez bientôt voir, au bord du chemin, un petit bosquet d'arbres qui vous offre son ombrage pour surplomber l'étang. On va s'y attarder un instant.
Et donc, en fait, maintenant, on a une reconquête par le Panalep. On le voit très, très bien sur la droite. Mais si on regarde bien, on peut les retrouver. On va retrouver le maillage régulier des plantations. Mais c'est un paysage qui a beaucoup changé par rapport aux années 1900. Quand on voit les photos de paysages des années 1900, la Provence est complètement blanche. C'est-à-dire, le calcaire apparaît sur toutes les photos. Il y a très peu de forêts. Et le calcaire lui-même est mis à nu par les surpâturages des chèvres et des moutons et pour les briqueteries. Et donc on avait la garrigue qui était coupée, ensuite elle était pâturée. Donc c'était un paysage complètement différent.
Vous êtes arrivé au bosquet. Attention, c'est un bois sacré, magique. Instantanément, il vous transporte au bord de l'eau.
Je suis maître de port d'Istres depuis 18 ans. Et mes fonctions ne s'arrêtent pas qu'au port. On a quand même, aujourd'hui, on a les plages à surveiller, enfin l'emplacement pour la saison estivale. On a l'étang d'olivier avec ses bateaux de joute, avec le jet d'eau, les feux d'artifice, tout ce qui draine l'eau, disons, c'est le port qui est dedans. Et on a quand même 11 km de côte, ce qu'il faut gérer quand même, ça fait quand même partie de la commune. Ensuite, on a la superficie de l'étang d'olivier, je ne la connais pas très bien, mais il y a quand même une grande étendue, parce qu'il y a quand même de la vie. On a le tunnel de circulation entre l'étang d'olivier et l'étang de verre. Ensuite, on a quand même le Safre qui est quand même d'époque. On a le Castellan. On a ici en face de nous, on a toutes les roselières qui fait quand même qu'il y a de la vie, il y a des canards, en ce moment ça niche. Ensuite, on a aussi quand même l'étang d'Entressin. L'étang d'Entressin qui est quand même, c'est quand même réputé depuis des années. Il ne faut pas oublier quand même que l'étang de l'olivier, ça appartenait à un comte. Après, ça a évolué. Après, c'est la ville qui a repris quand même la concession. Enfin, dire, les domaines maritimes ont donné le port à la ville d'Istres. Maintenant, on a une concession, c'est tout à fait normal, à ôter. Donc, l'étang d'Olivier appartient à la ville d'Istres. Voilà. Ensuite, au niveau de la pêche, elle est abondante. Là, il y a toutes sortes de poissons. Ensuite, l'étang d'Olivier, il y avait quand même, par la circulation du tunnel, on avait quand même un pêcheur, c'était Marius. Et Marius, comme on l'appelait Marius à l'époque, il avait la concession pour la pêche. Et à l'époque, il pêchait les muges. Et les muges, à l'époque, c'était pour nous, c'était important. Et on vivait avec ça à l'époque. À l'époque, c'était ça. Bon, aujourd'hui, on a évolué, bien sûr. Hein, on a évolué dans tous les domaines, quoi. Oui, alors les moules, ces moules-là, je ne connais pas le nom de ces moules, mais c'est vrai qu'on a... ces moules-là, je ne peux pas vous le dire. Il y en a tellement des moules. Normalement, c'est des moules douces. Hein, c'est des moules douces. Et d'ailleurs, quand on a... Mais là, il n'y en a plus. Hein, il y en a plus. Par contre, comme j'ai fait des travaux dernièrement à 10 mètres de fond là, pour le jet d'eau, puisqu'on a mis les cormorans en place, j'ai remonté des moules qui devaient bien faire quand même presque 10 cm de long. Hein. Et comme quoi qu'il y avait vraiment de la vie. Il y avait de la vie. Bon, aujourd'hui, il n'y en a plus.
Repartons. Reprenez le chemin. Un peu plus loin, vous verrez deux bancs de fer face à l'horizon. Ils n'attendent que vous. Asseyez-vous confortablement. Au loin, observez comment l'urbanisation gagne le paysage.
Aujourd'hui encore, il y a une bonne partie de l'espace de Croc qui est quand même cultivé et qui est sur le territoire d'Istres. Hein. Alors, simplement, un bon morceau du contact du vieil Istres avec la Croc est devenu le lieu de l'extension urbaine. Donc l'essentiel de l'extension s'est fait entre Istres et puis la base aérienne sur des territoires qui étaient des territoires de crocs irrigués et qui sont devenus des territoires urbains avec des maisons individuelles ou des petits collectifs.
Avant de revenir au centre, faisons un tour par la périphérie.
Et là on est sur le port des Heures Claires, donc c'est un port qui est assez récent et qui s'est développé très, très 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 bien avec une école de voile. Et tout au-dessus du port, on a une colline, une rupture de niveau qui est importante, sur laquelle sont installés des cabanons qui sont devenus des maisons. Et c'est devenu un quartier résidentielle qui est prisée, mais qui a quelques problèmes de glissement de terrain sur les grandes pluies. C'était du cabanon, deux résidences d'été, des gens qui venaient du Vaucluse. Quand vous êtes dans le Vaucluse, l'endroit le plus proche pour se baigner, c'était l'étang de Berre, à l'époque où l'étang de Berre était salé, et donc pas pollué, enfin tout du moins, pas pollué comme il l'a été avec à la fois l'arrivée d'eau douce et puis le développement de la raffinerie de la Shell ou Total, enfin la pétrochimie. Donc l'état de l'étang n'a fait qu'empirer, si bien qu'à un moment donné, c'était plus intéressant d'aller se baigner à Fosse, en bord de mer, vraiment la mer à Fosse, plutôt que venir dans l'étang de Berre.
Avec tous les apports d'eau qui arrivent quand même, le fluvial, vous avez les canaux d'arrosage, bien sûr, ça se déverse là-dedans. Et on a eu pas mal de limons qui sont arrivés, en particules, qui sont déposés au fond de l'eau par des années, bien sûr. Mais ce qui nous a fait le plus mal aujourd'hui, nous, c'est l'étang de Berre. L'étang de Berre, c'est vrai que l'arrivée de l'EDF, c'était bien, oui. À l'époque, on a voulu faire la centrale d'EDF, c'était bien, l'électricité, tout ça. Il y avait la chaîne d'endurance. Jusque-là, il n'y avait pas de problème. Mais personne ne s'est mis en tête qu'il y aurait eu des conséquences. Ils ont déversé, à un moment donné, ils ont déversé trois fois la superficie de Berre. C'est des milliards de mètres cubes. Mais tout ça, c'était chargé en limon. Et sur ce, on a eu le tunnel du Rhône aussi qui a fait qu'il s'est éboulé dans les années 60, 62. Ça a fait qu'il n'y avait plus cette circulation d'eau qui apportait de l'eau de mer avec la rentrée du canal de Martigues. Donc, il est vrai que maintenant, depuis quelques années, l'État a été condamné par l'Europe. L'EDF, bien sûr, mais c'est l'État toujours, n'oublions pas, parce que l'EDF, c'est l'État dans l'État, c'est clair. Maintenant, ce qu'ils appellent l'IPassive, ils déversent un peu d'eau de la Durance, mais moins chargée, je veux dire, de temps en temps. Si on déversait l'eau à Malemort, qui reprenait son lit de la Durance, ça serait bien. Mais aujourd'hui, ça, c'est encore une question de... C'est une affaire d'État, encore une fois.
Il y avait une vraie navigation sur l'étang de Berre. Mais ici, la ville tourne le dos à l'étang, clairement. Donc, il n'y a pas eu d'activité marchande développé ici fortement. Il y avait de la pêche. Donc ici, on pêche du loup, on pêche du muge, et puis on pêche de l'anguille. Mais l'anguille, en principe, elle n'est pas vendue, elle est revendue à des Italiens, elle est vendue vivante, et elle part se faire dépolluer en Italie. Ensuite, elle repart aux Pays-Bas, où là, elle est fumée, et ensuite, ils nous la revendent. Commerce triangulaire. Mais en fait, l'étang est poissonneux, mais beaucoup moins qu'avant. C'est un endroit qui est extrêmement favorable pour la pêche. Mais ça sous-entend que EDF n'injecte plus son eau douce massivement dans l'étang, et le problème n'est pas du tout résolu. Donc on est tout le temps dans un système de rupture à cause des coups de bélier qui sont donnés par l'arrivée brutale de l'eau douce. On aurait de l'eau douce en quantité, mais comme un fleuve apportant de manière régulière l'eau, on serait dans une autre situation. Mais là, on a un effet de chasse d'eau qui est extrêmement brutal. Et on ne sait pas comment régler la question. Sinon, de dire, l'eau arrivée à Saint-Chamas, on l'a fait aller... on ne sait pas où d'ailleurs, soit dans la baie de Fosse, soit dans le Rhône, mais ça coûte un fric absolument fou. Et alors on dit à EDF, vous n'avez qu'à payer, et EDF dit non, c'est trop. Et donc rien ne bouge, tout le monde se regarde, et les solutions techniques qui ont été envisagées coûtent extrêmement cher, personne ne veut payer. Donc on est dans le statu quo. Si on pouvait avoir une eau salée de qualité, sans pollution, maintenant je crois que la Shell va fermer, ça changerait la donne, parce que ça pourrait devenir un endroit éminemment sympathique à fréquenter en été, par exemple.
Un peu d'exercice maintenant. Prenez le chemin qui traverse le plateau et remontez-le jusqu'au sommet de la colline.
Pour le moment, on n'a pas encore franchi le pas. Alors il y a des gens un peu malins qui ont compris que c'était quand même sympa d'y habiter. Donc ils ont leur bateau ici, et ils ont éventuellement leur maison dans la colline juste à côté. Donc oui, ici on est vraiment en vacances, hein, aujourd'hui, là, hein, c'est extraordinaire. Une superbe journée. Et voilà, et alors, on voit bien le problème de l'étang qui est un peu coupé en deux. C'est-à-dire qu'au fond, c'est La Chelle, c'est Marignane, et ça a plutôt tendance à être pollué. Mais ici, en fait, on est dans une situation qui est assez favorable. Et il y a une sorte de ligne de partage de l'étang. Il y a l'étang côté ouest qui est resté encore quand même très sauvage. Et puis il y a le côté est, Berre, Vitrolles, Marignane, qui lui, jusqu'à La Mède, qui lui est beaucoup plus industriel et plus lourdement touché par les activités humaines. Mais ici, en fait, si vous regardez de près, de la pointe de l'usine de Saint-Chamas EDF jusqu'à Martigues, eh bien, on est dans des côtes qui sont extrêmement boisées, quand même globalement peu habitées, et c'est un endroit qui est aussi assez peu pollué. Donc c'est vraiment un étang, un Janus, hein, la biface. Hein. Et ici, on est sur la bonne face. Et de même dans les collines, si on marche, un, il n'y a personne, et deux, c'est très, très joli, très agréable. Avoir un gros bateau ici, c'est pas mal, parce qu'on a de la place et c'est pas très cher. Enfin, pas très cher, tout est relatif, mais c'est beaucoup moins cher que, par exemple, à l'Estac. Oui, d'ici, en naviguant, quand il y a un petit vent, en une heure à peine, on est à Martigues. Là, il y a la contrainte du pont qui doit se lever. Et ensuite, on a au moteur, on a une petite heure de traversée du chenal de Caronte et on est en mer. Et là, on a toute la côte bleue. Ça fait une très très belle balade. Hein.
C'est vrai que bon, la nature elle fait bien les choses des fois, la nature fait bien des choses, hein, mais c'est vrai que quelque part aujourd'hui avec la population qui a autour de ces étangs, on a augmenté la population automatiquement, il y a beaucoup plus de rejets qui vont sur ces étangs-là. Mais comme je dis encore une fois, bon, quelque part on a de la chance, la nature fait bien les choses, mais il ne faut pas oublier quand même qu'on voit les fossiles, l'Istres c'était sous l'eau. Donc, la nature fait bien les choses, encore une fois, ben, j'insiste là-dessus parce que c'est la nature qui fait tout de toute façon. L'homme détruit, mais la nature, elle est là. Dans les années millénaires, hein, je pense, la Terre avait bougé et tout ce qui était au fond de l'eau, c'est revenu en surface.
Sur le belvédère. Stop. Voilà. Comment est-ce que l'urbanisme istréen s'est développé?
Alors, il s'est développé par couches successives autour du vieux village. Hein, et la première rupture, c'est la construction de ces HLM que vous voyez là, qui ont été construits par le maire d'Istres de l'époque qui s'appelait Félix Gouin.
Cherchez un point de vue qui vous permette de contempler le centre-ville.
Et qui a fait beaucoup, il était aussi conseiller général, il a fait beaucoup pour le développement de sa ville, c'était quelqu'un d'assez moderne, hein, et donc il a fait construire ses HBM qui reprennent, qui sont curieux parce qu'ils sont en arc de cercle, ils reprennent la trace du rempart du vieil Istres. Et c'est le premier événement en rupture, je dirais, avec la construction vernaculaire traditionnelle. Hein. Et puis ensuite, on a eu aussi, bien sûr, des pavillons, des maisons qui se sont développées en première couronne. Et ensuite, la ville s'est massivement développée sous forme de zones d'aménagement concertées, de ZAC, au moment de la construction des usines de fosses pour loger les gens. Et donc, s'est construit les quartiers de Prédina et de Prépaou, qui étaient assez distants du centre ancien où se trouvait la mairie, l'église, etc. Donc ça a posé un gros problème d'avoir cette ville qui était séparée, ces nouveaux quartiers. Donc la ville a choisi de combler ce vide entre les nouveaux quartiers et qui sont des opportunités foncières de la Caisse des dépôts. Donc on a construit sur les terrains qu'on avait. Et puis bon, c'est tombé un petit peu comme ça tombait, c'est-à-dire pas très bien. Donc après, il a fallu boucher les trous, je dirais, et faire de la couture urbaine, ce qu'on appelle dans notre jargon, c'est-à-dire faire en sorte qu'on ait une continuité construite entre la ville ancienne et les quartiers nouveaux. Et donc, c'est la grande ZAC qui s'est développée au milieu et qui est devenue un nouveau centre, mais qui est devenu quand même une composante importante, puisqu'on va y trouver le lycée, on va y trouver la salle des fêtes, le commissariat de police, la piscine, enfin le centre nautique, etc. etc. Tous ces équipements-là se sont installés où il y avait de la place, hein, et dans le cadre d'une opération de ZAC qui était pilotée par la commune avec comme maître d'ouvrage légué l'établissement public dans lequel je travaillais. Ben, les grands principes du point de vue de l'urbanisme étaient de ne pas faire de grands ensembles. Donc on sait les défauts de ces implantations massives et trop unitaires, trop peu subtiles. L'objectif était de construire, certes, de construire beaucoup, de construire quand même relativement dense, mais en faisant varier les types d'architecture, avoir une offre diversifiée et plus complexe, en particulier sur l'espace public.
Et si on faisait un zoom avant ? Si on s'offrait quelques minutes d'ubiquité pour être ici et en face, en ville, pour y entrevoir de plus près ? Scotty, téléportation.
On est à la place Bellevue en ce moment, donc ça nous permet de voir les HVM derrière nous, des années 35. Et puis on voit au contraire, dans le vieux village, la réhabilitation qui se fait progressivement des maisons. Le sol a été refait il y a déjà plusieurs années. Et petit à petit, on a une forme de gentrification qui se fait de ce tissu ancien qui a très peu bougé. Ce qui fait que, du coup, ça devient vraiment une sorte de petit village provençal assez remarquable, parce qu'il y a peu d'interventions fortes et massives à l'intérieur du tissu. Donc on se promène en fait dans un espace du XVIIe siècle, en fait, XVIIe, XVIIIe. Et comme ça monte, il y a des escaliers, il y a beaucoup d'espaces qui sont piétons. Et donc il y a une qualité de cheminement à l'intérieur de ce petit noyau villageois qui est tout à fait remarquable. Alors ici, par exemple, dans la rue Neuve, on trouve, contrairement au nom de la rue, on trouve une maison qui est sûrement une des plus vieilles. Vous avez des croisées de fenêtres qui sont renaissance, qui ont été rebouchées. Mais ça, c'est une très très vieille maison, ça. On a ces fenêtres qui étaient des grandes fenêtres qui ont été bouchées au moment des impôts sur les portes et fenêtres fin 19e. Et on a mis des fenêtres plus petites. Alors, au fur et à mesure qu'on descend, les maisons sont de plus en plus hautes et, entre guillemets, de plus en plus bourgeoises, jusqu'à arriver sur la circulation des anciens remparts. On est plus près de la zone de circulation, de commerce, donc les maisons sont reprises au 18e, au 19e, au 20e siècle pour faire des maisons plus grandes comme celle-là par exemple. Voilà, ici on est au niveau des anciens remparts, là, qui sont maintenant devenus une zone piétonne, et on va arriver sur la place de la mairie en descendant. Ça, c'était des quartiers qui étaient assez paupérisés à un moment donné. Là, je vois que ça évolue.
Bon, allez, je te laisse. Bisous.
Vous êtes sur le Belvédère, face au centre-ville. Sur votre gauche, par un petit chemin qui mène dans la direction opposée, à un éperon rocheux en cul-de-sac. Allez-y.
Mais globalement, il y a eu peu de grosses infrastructures de fait dans le tissu ancien de la vieille ville, ce qui fait son charme, quoi. Et quand je parlais gentrification, c'est gentrification modérée, parce qu'on peut regarder, on voit des choses qui sont du début du XXe siècle, et même du XIXe, sans problème, pas du tout retapé dans son jus, quoi. Voilà, donc ici on arrive sur la place de l'église. Alors qui est intéressant, parce que c'est une église fortifiée. Vous voyez, il y a les deux tours là, et une petite échauguette. Donc ça correspond à une période de trouble. Ici, on est sur une ligne de frontière entre le royaume de France, qui était de l'autre côté du Rhône, et puis le royaume de Provence. Donc vous avez un château fort à Fos, l'église fortifiée à Is, un château fort à Miramas-le-Vieux, l'Empérie à Salon-de-Provence, jusqu'à Beaucaire, Tarascon, etc. Vous remontez et vous avez une chaîne continue de fortifications tout le long du Rhône qui correspondait au fait que c'était bonjour, que c'était pas le même pays de l'autre côté du Rhône.
Vous êtes arrivé sur l'éperon rocheux. En face, à droite, à gauche, le vide. Il n'y a que le ciel au-dessus de vous. Et dans ce ciel volent des oiseaux de fer qui nichent dans des terres mystérieuses, une zone 51, interdite au commun des mortels. Son nom sonne comme un code. BA-125, la base aérienne stratégique d'Istres.
Alors la base aérienne d'Istres trouve ses origines dans l'école d'aviation d'Istres, qui a été créée au printemps de 1917. Et il faut savoir que c'est la dernière école de l'aéronautique militaire française créée pour les besoins de la guerre. Il faut savoir que l'aéronautique militaire a été créée en 1912 par le général Roch, et à cette époque, seulement deux écoles d'aviation existaient, c'était l'école de Pau et l'école d'Avor. Et le commandement décide d'implanter dans une zone relativement vaste et éloignée du front une autre école, ce sera l'école d'Istres, de renommée mondiale puisqu'elle a également formé des pilotes étrangers. Et cette école va devenir la base aérienne 125 qui est à l'heure actuelle une des plus importantes, sinon la plus importante de France. Le premier avion mis en service à l'école d'Istres est le Caudron G3, un biplan en toile qui est le premier avion à évoluer dans le ciel d'Istres et le ciel de l'Acro. Je vais vous employer une expression qui est très populaire. Le pilotage à cette époque-là était appelé le pilotage aux fesses. Pourquoi aux fesses? Parce que les instruments de bord étaient très très réduits et en définitive, le pilote sentait sous ses fesses les réactions de l'avion. Donc le pilote devait être quelqu'un de très sensible déjà et de très costaud.
Kein Schwein ruft mich an. Keine Sau interessiert sich für mich. Solange ich hier wohn, ist es fast wie Hohn, schweigt das Telefon.
Et il faut savoir malgré tout que ces avions pouvaient monter à des altitudes de 4000 à 4500 mètres, où la température est de l'ordre de moins 20, moins 30 degrés. Donc on voit souvent dans les vieux documents les pilotes habillés de la peau de bique, la célèbre peau de chèvre, qui était le seul vêtement capable de se protéger du froid de façon relativement efficace. Alors le moteur était également très peu sûr, puisque il fallait au décollage trouver, si vous voulez, au niveau de la carburation, le bon mélange.
On décolle. Non, non, ne vous jetez pas dans le vide. Revenez sur vos pas. Vous prendrez le chemin qui contourne le sommet par la gauche. Vous revenez vers le plateau, côté ville.
À l'école d'Istres ont été formés de grands pilotes, dont je parlerai de Jean Mermoz. Au départ d'Istres, d'ailleurs, il a réalisé à bord de l'Arc-en-Ciel la première traversée de l'Atlantique Sud. Et cette école va disparaître en 1940, après la défaite de France. Donc on retrouve ici à Istres le point de rassemblement de toutes les unités donc, qui peuvent s'échapper, je dirais, du régime de Vichy. Et donc Istres se trouve dans une situation, on appelle ça les heures sombres. En 1942, je pense, le débarquement donc, d'Afrique du Nord par les Anglo-Américains, l'opération Torch, la zone libre donc est envahie donc par l'occupant et la base d'Istres se trouve sous contrôle allemand. Donc, à la fin de la guerre, l'armée de l'air française a été réarmée donc par les Américains. On va trouver donc avec Marcel Bloch, qui est devenu Marcel Dassault, les premiers jets genre Ouragan, le premier avion à réaction d'ailleurs ayant équipé l'armée de l'air française après guerre, et toute la série des mystères, puis des mirages qu'on connaît aujourd'hui. Alors, au niveau de la base, je pense pas que l'esprit ait changé. Pour une unité aérienne de combat, si vous voulez, larguer des bombes conventionnelles ou larguer une bombe atomique, bon, je pense que les procédures sont les mêmes. Si ce n'est que, en ouvrant une parenthèse, ça pourrait créer un cas de conscience à un équipage, mais ça s'arrête là. Alors il faut savoir que la dissuasion nucléaire est née avec le général de Gaulle. Et ici à Istres, on a la particularité d'avoir vu naître la deuxième composante nucléaire avec l'arrivée de l'escadron Guyenne.
Vous voici de retour sur le plateau, dont vous allez longer le bord, côté mairie, jusqu'à trouver un chemin qui redescend vers l'étang.
Alors la base aérienne d'Istres aujourd'hui compte environ 5000 personnes, réparties, on va dire, en moyenne 2800 militaires de l'armée de l'air, et le restant composé donc d'une population qui travaille dans des établissements soit étatiques, soit industriels. Alors effectivement, la base, depuis son implantation en 1917, fait partie intégrante de la ville d'Istres. Donc il y a des échanges réguliers aussi bien avec la municipalité que la population, puisqu'il faut quand même rappeler que c'est une ville de 40 000 habitants. Donc aujourd'hui, un habitant sur 8 travaille sur le site d'Istres. Et donc vous avez forcément quelqu'un d'une famille qui travaille sur le site. Donc c'est pour ça que la base est très très bien intégrée dans la commune. Les relations sont aussi excellentes avec les communes environnantes, malgré les nuisances sonores que ça peut générer. Alors la base donne du travail, effectivement, c'est dans le bassin d'emploi, c'est un élément important. La population, je dirais officier, sous-officier, ne vient pas forcément de la ville d'Istres ou de la région. Par contre, toute la population qu'on appelle les militaires techniciens de l'air, qui ont remplacé donc les appelés du contingent, sont recrutés effectivement localement. Aujourd'hui, ça représente pour la base aérienne une population d'à peu près 800 personnes qui sont recrutées ici. Bon, on est en constante évolution, notamment par effectivement la modernisation du matériel, mais également par les réorganisations et restructurations. Le format de l'armée de l'air a nettement diminué. Des bases aériennes ferment tous les ans jusqu'à présent. Donc le site d'Istres est amené à grossir un petit peu plus, en accueillant d'autres unités qui arriveraient de bases qui ferment. Alors même si la base venait s'agrandir, aujourd'hui on ne prendra aucun terrain aux communes environnantes. La base est suffisamment grande aujourd'hui puisqu'elle fait à peu près 2400 hectares. Donc quelles que soient les unités qui peuvent venir s'implanter sur la base, les bâtiments qui se reconstruisent, nous avons suffisamment de place pour pouvoir tout installer sans prendre des terrains aux communes environnantes. En sachant d'autant plus que la partie ouest de la base aérienne est classée en Natura 2000. Donc dans tous les cas de figure, on ne pourra pas y toucher. La base aérienne participe à toutes les cérémonies militaires qu'il peut y avoir sur Istres déjà, en priorité, et ensuite sur les communes environnantes, que ce soit Fos, Martigues, Miramas, Arles, on est présent partout. Maintenant, cette culture militaire, oui, Istres l'a toujours eu et l'aura toujours, puisque au-delà des personnes qui sont en activité et qui travaillent sur la base en ce moment, il ne faut pas oublier les nombreux retraités qui restent également sur Istres et qui donc sont toujours très attachés à la base aérienne 125.
Prenez le chemin qui redescend de la colline, puis longe le nouvel hôtel de ville par la gauche. La boucle est bientôt bouclée. Vous revenez vers votre point de départ.
Historiquement, je pense que le Provençal de souche depuis 10 générations est une rareté absolue à Istres. Hein. C'est-à-dire qu'on est dans des vagues successives de travailleurs émigrés qui s'installent, qui font souche. Et donc c'est une population qui finalement s'intègre plutôt très bien. Hein. Mais ça dure depuis plus d'un siècle, un siècle et demi, deux siècles. Oui, alors les Italiens à Racin, parce que justement l'usine était dangereuse, et il fallait... trouver de la main-d'œuvre. Les Provençaux voulaient absolument pas y travailler, donc on a fait venir des travailleurs émigrés italiens.
Alors, ce qui est très intéressant avec le site de Racin, c'est que sa création industrielle remonte à 1809. C'est une poussée industrielle qui est liée à l'exploitation du sel et la transformation du sel en soude, la soude servant d'alcali à la fabrication du savon de Marseille. Alors, c'est très intéressant l'histoire de Racin, parce qu'évidemment, c'est une industrie chimique, c'est une industrie qui est à côté du petit village d'Istres et qui va prendre une ampleur considérable à tel point que les ouvriers du village de Racin vont devenir plus nombreux que la population autochtone d'Istres. Alors c'est une usine qui va fermer ses portes en 1988, donc qui correspond typiquement aux pulsations de l'économie marseillaise, hein, de l'économie industrielle, naissance en 1809, rénovation, relance au moment de la seconde révolution industrielle, et puis enfin elle s'arrête dans les années 80, donc ce qui correspond typiquement à ça, avec une population majoritairement d'ouvriers italiens très tôt, qui viennent du Piémont. Dès 1820, plus de 50% de la population ouvrière est italienne. Et là, l'industriel de cette usine, qui était la famille Pratt, va construire des écoles, des logements, et créer un paternalisme industriel, comme une autre usine qui est tout à côté, d'ailleurs, de Racin, et qui est au plan d'Arin, qui a été une usine chimique construite à la même époque pour la même utilité. C'était une usine intégrée avec salin, fabrication d'acide sulfurique, tout ça pour produire de la soude pour les savonneries marseillaises également. Alors c'est une sorte de complexe industriel autour des salins, hein, puisqu'il s'agit quand même de la transformation du sel, mais bon, il faut imaginer toutes sortes de machines aussi, hein, pour faire le va-et-vient des eaux dans les tables salantes, etc. Il y a des vis d'Archimède, il y a des moulins à vent qui permettent de faire venir l'eau, il y a des machines à vapeur, hein, c'est là que les premières machines à vapeur ont été installées dans le département quand même, hein, c'est autour de Racin, de cette exploitation du sel, et ces deux usines, Racin et celle du plan d'Arin, fonctionnaient pour les savonneries marseillaises, donc évidemment il y avait un va-et-vient de cabotage, hein, pour transporter la soude jusqu'à Marseille. Cette production de soude, elle a connu un premier coup d'arrêt avec l'arrivée de Solvay, pas très loin de Racin, justement à Salins-Giraud. Solvay avait un autre procédé pour fabriquer de la soude, c'était pas de la soude Leblanc comme à Racin, c'était un principe de soude à l'ammoniac, beaucoup plus économique, moins polluant et produisant un produit plus pur, donc plus intéressant pour les savonniers. Donc, quand arrive Solvay à partir de 1895, très vite, toutes les soudières Leblanc de la région sont obligées d'abandonner la soude. Et en 1914, c'est Solvay qui contrôle entièrement le marché de la soude. Mais les vieilles soudières Leblanc ne vont pas s'arrêter. Elles ne vont plus fabriquer de la soude, mais comme elles avaient de l'acide sulfurique, elles vont utiliser l'acide sulfurique pour faire autre chose, et notamment des superphosphates, des engrais chimiques. Ce sont les débuts de l'agriculture intensive. Donc on va enrichir les phosphates qui viennent d'Algérie, qui viennent du Maroc, qui viennent de Tunisie, et on va fabriquer des superphosphates pour les agriculteurs de la région. Et puis après, on va se diversifier vers ce qu'on appelle des anticryptogamiques, c'est-à-dire vers des produits qui servent à tuer les maladies de la vigne, et à traiter toutes ces productions viticoles pour éviter des pertes de récolte. Donc ça va être un petit peu les reconversions. On va fabriquer du chlore, on va fabriquer de la colle aussi. Donc à partir de la fin de l'abandon de la soude Leblanc, on va se diversifier vers un tas de produits chimiques. Donc l'histoire de la pollution industrielle, c'est vrai que souvent les industriels se sont mis à l'écart pour éviter les procès, parce qu'ils perdaient ces procès et ça finissait par leur coûter très cher. Donc ils avaient le choix entre deux solutions, soit trouver un moyen technique pour polluer moins, mais c'était souvent très difficile et on n'avait pas forcément l'appareil scientifique et technique pour le faire, c'était pas qu'une question d'investissement. L'autre solution, c'était de se délocaliser et de s'installer dans des régions isolées. Alors c'était pas le cas pour Assouin, puisque ce qui a primé pour Assouin, c'était le sel, mais c'était le cas pour des tas d'industries marseillaises, notamment celle qui était à Septem. Septem a été un grand centre chimique, où là, on a vu plusieurs industriels, dès les années 1816, j'insiste, face aux manifestations de la population, 200 paysans qui venaient autour des usines pour brûler, menacer de brûler les usines à cause de la pollution, eh bien, s'installer sur des îles de Porquerolles, des Ambiers, de Porquerolles, parce que là, il y avait des salins à proximité qui permettaient un approvisionnement, mais ils pouvaient fractionner la pollution et la rendre moins contestable, plus acceptable.
Cette belle allée, vous voilà de retour. Vous avez pu y entrevoir le nouvel hôtel de ville. Comme les eaux qui circulent d'un étang à l'autre, les marges et les centres circulent aussi à Istres. Et ce lieu hors du temps qu'est le Castellan, appelé peut-être à accueillir des flots de mariés en robe blanche, venus immortaliser leur bonheur devant les paysages que vous venez d'entrevoir. Entrevue. Vous écoutiez une promenade sonore qui vous était proposée par Xavier Thomas. Vous y avez entendu, par ordre d'apparition, Georges de Mouchy, paysagiste, Luigi Abadessa, maître du port d'Istres, les majors Jean-Paul Gros et Bruno Tabouret, base aérienne 125, et Xavier Domalin, historien. Pour prolonger cette balade, vous pouvez aller entrevoir de loin, parce qu'elle est quand même classée zone Céveso, la magnifique usine de Rassuin. Ou bien vous pouvez redescendre à gauche, dépasser les pompiers et vous faire le parcours de santé. C'est vous qui entrevoyez.
Vous voilà de retour ici. Vous pouvez retrouver d'autres promenades sonores sur le site www.promenade-sonore.com. Les promenades sonores sont un projet de Radio Grenouille Euphonia, en coproduction avec Marseille Provence 2013, capitale européenne de la culture, avec le soutien de la SACD et du programme Service numérique innovant du ministère de la Culture et de la Communication.